Chapitre 8. Pendant le reste de l'hiver, les Durois allèrent souvent chez les Walter. Georges même y dînait seul à tout instant, Madeleine se disant fatiguée et préférant rester chez elle. Il avait adopté le vendredi comme jour fixe, et la patronne n'invitait jamais personne ce soir-là. Il appartenait à Bellamy, rien qu'à lui. Après dîner, on jouait aux cartes, on donnait à manger aux poissons chinois, on vivait et on s'amusait en famille. Plusieurs fois, derrière une porte, derrière un massif de la serre, dans un coin sombre, Madame Walter avait saisi brusquement dans ses bras le jeune homme et, le serrant de toute sa force sur sa poitrine, lui avait jeté dans l'oreille « Je t'aime, je t'aime, je t'aime à en mourir !» Mais toujours, il l'avait repoussé froidement en répondant d'un ton sec « Si vous recommencez, je ne viendrai plus ici. » Vers la fin de mars, on parla tout à coup du mariage des deux sœurs. Rose devait épouser, disait-on, le comte de la Tour Yvelin et Suzanne, le marquis de Cazolles. Ces deux hommes étaient devenus des familiers de la maison, de ces familiers à qui on accorde des faveurs spéciales, des prérogatives sensibles. Georges et Suzanne vivaient dans une sorte d'intimité fraternelle et libre, bavardaient pendant des heures, se moquaient de tout le monde et semblaient se plaire beaucoup ensemble. Jamais ils n'avaient reparlé du mariage possible de la jeune fille, ni des prétendants qui se présentaient. Comme le patron avait emmené Duroy pour déjeuner un matin, Madame Walter, après le repas, fut appelée pour répondre à un fournisseur, et Georges dit à Suzanne « Allons donner du pain au poisson rouge ». Ils prirent chacun sur la table un gros morceau de mie et s'en allèrent dans la serre. Tout le long de la vasque de marbre, on laissait par terre des coussins afin qu'on pût se mettre à genoux autour du bassin pour être plus près des bêtes nageantes. Les jeunes gens en prirent chacun un, côte à côte, et, penchés vers l'eau, commencèrent à jeter dedans des boulettes qu'ils roulaient entre leurs doigts. Les poissons, dès qu'ils les aperçurent, s'en vinrent en remuant la queue, battant des nageoires, roulant leurs gros yeux saillants, tournant sur eux-mêmes, plongeant pour attraper la proie ronde qui s'enfonçait, et remontant aussitôt pour en demander une autre. Ils avaient des mouvements drôles de la bouche, des élans brusques et rapides, une allure étrange de petits monstres. Et, sur le sable d'or du fond, ils se détachaient en rouge ardent, passant comme des flammes dans l'onde transparente ou montrant, aussitôt qu'ils s'arrêtaient, le filet bleu qui bordait leurs écailles. Georges et Suzanne voyaient leurs propres figures renversées dans l'eau et ils souriaient à leurs images. Tout à coup, il dit à voix basse « Ce n'est pas bien de me faire des cachotteries, Suzanne. » Elle demanda « Quoi donc, belle amie ? Vous ne vous rappelez pas ce que vous m'avez promis ici même le soir de la fête ? Mais non ! De me consulter toutes les fois qu'on demanderait votre main. Eh bien ? Eh bien, on l'a demandé. Qui ça ? Vous le savez bien. Non, je vous jure. Si, vous le savez. Ce grand fat de marquis de Cazolles. Il n'est pas fat, d'abord. C'est possible, mais il est stupide, ruiné par le jeu et usé par la noce. C'est vraiment un joli parti pour vous, si joli, si fraîche et si intelligente. » Elle demanda en souriant, « Qu'est-ce que vous avez contre lui ?»« Moi, rien. Mais si, il n'est pas tout ce que vous dites. Allons donc, c'est un sot et un intrigant. » Elle se tourna un peu, cessant de regarder dans l'eau. « Voyons. Qu'est-ce que vous avez ? » Il prononça, comme s'il eût arraché un secret du fond du cœur. « J'ai que je suis jaloux de lui. » Elle s'étonna modérément. « Vous ? » ?»« Oui, moi. » « Tiens, pourquoi ça ?»« Parce que je suis amoureux de vous. Et vous le savez bien, méchante. » Alors elle dit d'un ton sévère, « Vous êtes fou, belle amie !» Il reprit, « Je le sais bien que je suis fou. Est-ce que je devrais vous avouer cela, moi, un homme marié, à vous, une jeune fille ? Je suis plus que fou. Je suis coupable, presque misérable. Je n'ai pas d'espoir possible et je perds la raison à cette pensée. Et quand j'entends dire que vous allez vous marier, j'ai des accès de fureur à tuer quelqu'un. Il faut me pardonner ça, Suzanne. » Il se tut. Les poissons, à qui on ne jetait plus de pain, demeurait immobile, rangés presque en ligne, pareils à des soldats anglais, et regardant les figures penchées de ces deux personnes qui ne s'occupaient plus d'eux. La jeune fille murmura, moitié tristement, moitié gaiement, « C'est dommage que vous soyez mariés. Que voulez-vous? On n'y peut rien, c'est fini. » Il se retourna brusquement vers elle et lui dit, tout près, dans la figure, « Si j'étais libre, moi, m'épouseriez-vous ? » Elle répondit avec un accent sincère. « Oui, belle amie, je vous épouserai, car vous me plaisez beaucoup plus que tous les autres. » Il se leva et, balbutiant, « Merci, merci, je vous en supplie, ne dites oui à personne. Attendez encore un peu, je vous en supplie. Me le promettez-vous ? » Elle murmura, un peu troublée et sans comprendre ce qu'il voulait. « Je vous le promets. » Du roi jeta dans l'eau le gros morceau de pain qu'il tenait encore aux mains, et il s'enfuit, comme s'il eût perdu la tête, sans dire adieu. Tous les poissons se jetèrent avidement sur ce paquet de mie qui flottait, n'ayant point été pétri par les doigts, et ils le dépecèrent de leur bouche vorace. Ils l'entraînaient à l'autre bout du bassin, s'agitaient au-dessous, formant maintenant une grappe mouvante, une espèce de fleur animée, tournoyante, une fleur vivante, tombée à l'eau, la tête en bas. Suzanne, surprise, inquiète, se redressa et s'en revint tout doucement. Le journaliste était parti. Il rentra chez lui, fort calme, et comme Madeleine écrivait des lettres, il lui demanda « Dînes-tu vendredi chez les Walter ? Moi, j'irai. » Elle hésita « Non, je suis un peu souffrante. J'aime mieux rester ici. » Il répondit, « Comme il te plaira, personne ne te force. » Puis il reprit son chapeau et ressortit aussitôt. Depuis longtemps, il l'épiait, la surveillait et la suivait, sachant toutes ses démarches. L'heure qu'il attendait était enfin venue. Il ne s'était point trompé au ton dont elle avait répondu, « J'aime mieux rester ici. » Il fut aimable pour elle pendant les jours qui suivirent. Il parut même gai, ce qui ne lui était plus ordinaire. Elle disait « Voilà que tu redeviens gentil. » Il s'habilla de bonne heure le vendredi pour faire quelques courses, avant d'aller chez le patron, affirmait-il. Puis il partit vers 6 heures après avoir embrassé sa femme et il alla chercher un fiacre place Notre-Dame-de-Lorette. Il dit au cocher « Vous vous arrêterez en face du numéro 17 rue Fontaine et vous resterez là jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de vous en aller. » Vous me conduirez ensuite au restaurant du Coq Faisan, rue Lafayette. » La voiture se mit en route, au trot lent du cheval, et Duroy baissa les stores. Dès qu'il fut en face de sa porte, il ne la quitta plus des yeux. Après 10 minutes d'attente, il vit sortir Madeleine qui remonta vers les boulevards extérieurs. Aussitôt qu'elle fut loin, il passa la tête à la portière et il cria « Allez !» Le fiacre se remit en marche et le déposa devant le Coq Faisan, resto bourgeois connu dans le quartier. Georges entra dans la salle commune et mangea doucement en regardant l'heure à sa montre de temps en temps. À 7h30, comme il avait bu son café, pris 2 verres de fine champagne et fumé avec lenteur un bon cigare, il sortit, et là une autre voiture qui passait à vide, et se fit conduire rue La Rochefoucauld. Il monta sans rien demander au concierge au 3e étage de la maison qu'il avait indiquée. Et quand une bonne lui eut ouvert, « Monsieur Guibert Delorme est chez lui, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » On le fit pénétrer dans le salon, où il attendit quelques instants. Puis un homme entra, grand, décoré, avec l'air militaire, et portant des cheveux gris, bien qu'il fût jeune encore. Duroy le salua, puis lui dit « Comme je le prévoyais, monsieur le commissaire de police, ma femme dîne avec son amant dans le logement garni qu'ils ont loué rue des Martyrs. » Le magistrat s'inclina. « Je suis à votre disposition, monsieur. » Georges reprit. « Vous avez jusqu'à 9h, n'est-ce pas ? Cette limite passée, vous ne pouvez plus pénétrer dans un domicile particulier pour y constater un adultère. » « Non, monsieur. 7h en hiver, 9h à partir du 31 mars. » Nous sommes au 5 avril, nous avons donc jusqu'à 9h. Eh bien, monsieur le commissaire, j'ai une voiture en bas, nous pouvons prendre les agents qui vous accompagneront, puis nous attendrons un peu devant la porte. Plus nous arriverons tard, plus nous avons de chances de bien les surprendre en flagrant délit. Comme il vous plaira, monsieur. » Le commissaire sortit, puis revint, vêtu d'un pardessus qui cachait sa ceinture tricolore. Il s'effaça pour laisser passer Duroy, mais le journaliste, dont l'esprit était préoccupé, refusait de sortir le premier et répétait « Après vous, après vous !» Le magistrat prononça « Passez donc, monsieur, je suis chez moi !» L'autre aussitôt franchit la porte en saluant. Ils allèrent d'abord au commissariat, chercher trois agents en bourgeois qui attendaient, car Georges avait prévenu dans la journée que la surprise aurait lieu ce soir-là. Un des hommes monta sur le siège à côté du cocher. Les deux autres entrèrent dans le fiacre qui gagna la rue des Martyrs. Duroy disait « J'ai le plan de l'appartement, c'est au second. Nous trouverons d'abord un petit vestibule, puis la chambre à coucher. Les trois pièces se commandent. Aucune sortie ne peut faciliter la fuite. Il y a un serrurier un peu plus loin. Il se tiendra prêt à être réquisitionné par vous. » Quand ils furent devant la maison indiquée, il n'était encore que 8h15, et ils attendirent en silence pendant plus de 20 minutes. Mais lorsqu'il vit que les trois quarts allaient sonner, Georges dit « Allons maintenant ». Et ils montèrent l'escalier sans s'occuper du portier qui ne les remarqua point d'ailleurs. Un des agents demeura dans la rue pour surveiller la sortie. Les quatre hommes s'arrêtèrent au second étage, et Duroy colla d'abord son oreille contre la porte, puis son œil au trou de la serrure. Il n'entendit rien et ne vit rien. Il sonna. Le commissaire dit à ses agents « Vous resterez ici, prêts à tout appel. » Et ils attendirent. Au bout de 2 ou 3 minutes, Georges tira de nouveau le bouton du timbre plusieurs fois de suite. Ils perçurent un bruit au fond de l'appartement, puis un pas léger s'approcha. Quelqu'un venait épier. Le journaliste alors frappa vivement avec son doigt plié contre le bois des panneaux. Une voix de femme, qu'on cherchait à déguiser, demanda « Qui est là ?» L'officier municipal répondit « Ouvrez, au nom de la loi !» La voix répéta « Qui êtes-vous »«
Je suis le commissaire de police. Ouvrez ou je fais forcer la porte. »
La voix reprit « Que voulez-vous ?» Et Duroy dit « C'est moi, il est inutile de chercher à nous échapper. » Le pas léger, un pas de pied nu s'éloigna, puis revint au bout de quelques secondes. Georges dit « Si vous ne voulez pas ouvrir, nous enfonçons la porte. » Il serrait la poignée de cuivre, et d'une épaule, il poussait lentement. Comme on ne répondait plus, il donna tout à coup une secousse si violente et si vigoureuse que la vieille serrure de cette maison meublée céda. Les vis arrachées sortirent du bois et le jeune homme faillit tomber sur Madeleine qui se tenait debout dans l'antichambre, vêtue d'une chemise et d'un jupon, les cheveux défaits, les jambes dévêtues, une bougie à la main. Il s'écria « C'est elle, nous les tenons !» et il se jeta dans l'appartement. Le commissaire ayant ôté son chapeau le suivit et la jeune femme effarée s'en vint derrière eux en les éclairant.